Les mystères du Palais Royal, troisième partie, chapitre 16, Raoul et Hébé. Le cri de Raoul, le bruit que fit la carafe en se brisant, arrachèrent la mère Moloch au sommeil léthargique qui depuis un instant semblait s'être emparé d'elle. Sa tête, qui se penchait sur sa poitrine, se releva soudain. Ses yeux se rouvrirent. Elle regarda M. de la Tremblay d'un air inquiet et effaré, comme si elle ne le reconnaissait pas, et elle demanda « Qui êtes-vous? Que faites-vous là, et que me voulez-vous ? » Raoul répondit. Mais la vieille femme sembla ne point le comprendre et répéta ses questions à deux ou trois reprises. Évidemment, elle était encore sous le coup d'une hallucination qui troublait ses idées et bouleversait son cerveau. Raoul attendit que le moral de la mère Moloch fût remis des perturbations causées par une trop violente secousse. Peu à peu, la devineresse se calma. Elle posa la main sur son front et elle murmura « Ah, oui, je crois me souvenir. Vous étiez là pour m'interroger. J'ai appelé celui qui sait tout. L'extase est venue. L'esprit m'a répondu. Et j'ai parlé, n'est-ce pas ?» « Oui, » fit Raoul, « vous avez parlé. »« Alors, vous savez ce que vous vouliez savoir ?»« Pas encore, pas complètement. »« C'est un malheur, mais je ne puis vous en dire davantage. »« Ne pouvez-vous m'expliquer du moins ?» La mère Moloch interrompit vivement le jeune homme. « Rien, » s'écria-t-elle, « je ne sais rien, je ne me souviens de rien. »« N'insistez donc pas et ne m'en demandez pas plus long. »« La fatigue m'accable, je souffre. » Je défaille. Vous êtes gentilhomme, sans doute. Prouvez que vous êtes généreux, et laissez-moi. Soit, pensa Raoul. Pour aujourd'hui, c'est bien. Mais je reviendrai, et alors il faudra qu'elle s'explique. Il faudra que je sache jusqu'au bout cette sombre histoire dans laquelle je semble avoir un rôle terrible. Il faudra que j'apprenne, si je dois être un jour un geôlier, et peut-être un bourreau. Le jeune homme se dit en outre qu'il devait une large rémunération à la mère Moloch, non seulement pour la récompenser de ses prédictions, mais encore pour payer les soins qu'elle avait pris de lui pendant la nuit précédente. Et avec cette largeur fastueuse, particulière à presque tous les joueurs qui viennent de beaucoup gagner, il tira de sa poche 3 billets au porteur, d'une valeur de 1000 livres chacun, et il les plaça sur la table devant la vieille femme. La mère Moloch regarda d'un air hagard les précieux chiffons qui portaient l'estampille et la signature bien connue de messieurs les fermiers généraux. Évidemment, elle ne pouvait croire ses yeux. Elle allongea ses griffes crochues vers les billets dont elle s'empara et qu'elle froissa entre ses doigts avec une avidité et avec une joie convulsive. Puis elle se mit à pousser des exclamations incohérentes, à faire des gestes désordonnés, et enfin, elle saisit la main de Raoul et elle la couvrit de baisers. Malgré lui, le jeune homme frémit sous l'impression du baiser de ses lèvres froides. Tant de délire pour un peu d'argent lui semblait hideux, et ce spectacle lui faisait mal. Il prit son chapeau, qui se trouvait au chevet du lit sur lequel il avait reposé. Il rattacha son épée, dont Hébé avait débouclé le ceinturon. Il ouvrit la porte, il sortit et il descendit les premières marches de l'escalier. Comme il atteignait le premier étage, il entendit un peu au-dessous de lui le bruit léger de 2 pieds et le froufrou presque imperceptible d'une robe agitée. C'était la fille du diable qui remontait lestement. Les deux jeunes gens se trouvèrent en face l'un de l'autre et s'arrêtèrent tous deux en même temps. Sans trop savoir pourquoi, la jeune fille se sentit rougir jusqu'au blanc des yeux. Elle murmura de sa voix douce « Comment, monsieur ?» « Vous partez? Déjà ?» Raoul était préoccupé, inquiet. Les idées les plus sombres, les pressentiments les plus sinistres assiégeaient son esprit. Il croyait encore entendre résonner à son oreille les prédictions sinistres de la mère Moloch. Il croyait toujours se voir, spectacle étrange et fantastique, descendant dans un cachot lugubre pour y porter le pain et l'eau à une femme pâle et mourante. C'est assez dire à quelle prodigieuse distance il se trouvait de toute idée de galanterie, même banale. Il ne s'apercevait seulement plus qu'Hébé fut charmante. Il ne se rappelait même pas combien, la veille de ce jour, il s'était senti, pendant un instant, disposé à la suivre, tant il la trouvait séduisante et désirable. Aussi répondit-il sèchement et en saluant avec une froideur cérémonieuse. « Oui, mademoiselle, je pars. J'ai laissé en haut votre mère, très épuisée, très souffrante, et je crois que vous feriez bien de la rejoindre au plus tôt, car il me semble qu'elle a grand besoin de vous. » À cette réponse glaciale, la fille du diable pâlit, et son cœur se serra. Cependant, elle lutta contre elle-même, et elle demanda d'une voix presque tremblante, « Et vous, monsieur, comment allez-vous aujourd'hui ?»« Bien, très bien, » répliqua Raoul. « Grâce à vos bons soins, mademoiselle, grâce à ceux de votre mère. Aussi, je vous en remercie mille fois et vous supplie de ne point douter de ma reconnaissance. » « Sa reconnaissance ? » s'écria Hébé en elle-même. « Et qui la lui demande, mon Dieu ?» Puis, comme Raoul faisait un mouvement pour passer à côté d'elle et pour continuer à descendre, elle balbutia. « Reviendrez-vous ? » « Cela n'est pas douteux, mademoiselle. Pour consulter encore ma mère ?» afin qu'elle achève des révélations commencées. Et sera-ce bientôt ? L'esprit de Raoul était tellement préoccupé qu'il ne remarqua point tout ce qu'il y avait d'étrange et de provoquant dans cette insistance de la jeune fille. Il répondit donc simplement « Oui, bientôt, dans 2 jours, demain peut-être. » Et saluant de nouveau la fille du diable, il passa à côté d'elle, il franchit le reste des marches, il traversa l'allée de la maison. Il se trouva dans la rue, et il continua à marcher droit devant lui, sans savoir où il allait, et pensant à toute autre chose qu'à la direction que prenaient ses pas. Cette complète et profonde distraction dura longtemps. Raoul n'en sortit qu'en se trouvant sur les boulevards et en se voyant tout à coup au milieu d'une foule de promeneurs, de badauds, de marchands en plein vent, de coquettes, de grisettes, de saltimbanques. Depuis plus d'une demi-heure, absorbé par sa rêverie, il avait complètement perdu la conscience de ses actes. Lorsque notre héros revint à lui-même, son premier mouvement fut de pousser une exclamation de dépit et de se frapper brusquement le front. Il venait de se rappeler qu'il ne savait ni le numéro de la maison de la mère Moloch, ni même le nom de la rue où était située cette maison. Pendant ce temps, la fille du diable, un peu consolée par les dernières paroles de Raoul, se répétait à elle-même. « Il reviendra bientôt, dans peu de jours, demain peut-être. » Chapitre 17. Transition. Raoul, rentré chez lui, c'est-à-dire à l'hôtellerie de la Toison d'Or, sentit avec chagrin et avec effroi qu'il était beaucoup plus souffrant qu'il ne le croyait. La saignée abondante pratiquée par la mère Moloch avait, dans le premier moment, dégagé la tête. Mais le soulagement n'avait été que momentané, et le jeune homme éprouvait des douleurs aiguës dans la partie supérieure du crâne. Joignez à cela une courbature si violente qu'il semblait à Raoul que tous les os de ses membres étaient brisés et toutes ses articulations ankylosées. Il se mit au lit. La fièvre se déclara. Elle fut violente et dura 3 jours. Au bout de ce temps, le médecin, que le fidèle Jacques était allé quérir, déclara que le danger était passé et que la convalescence commençait. Ce médecin ne se trompait point. 1 semaine suffit pour que M. de la Tremblay fût sur pied. Il ne lui restait d'autre trace de sa courte maladie qu'une singulière absence de mémoire relativement à ce qui s'était passé chez la sorcière. Seulement, cette absence de mémoire se montrait presque absolue. Un voile épais avait étendu ses draperies opaques entre la mansarde de la mère Moloch et les souvenirs du jeune homme. Si, parfois encore, il cherchait à évoquer quelques réminiscences de la vision offerte à ses regards par les flancs de la carafe magique, il n'en venait point à bout, et les derniers vestiges s'effaçaient dans une brume confuse et impénétrable, comme le matin s'efface un rêve. Raoul, nous le savons, était devenu possesseur d'une somme de 400 000 livres. Cette somme constituait une véritable fortune, très considérable à cette époque, énorme surtout si l'on considère qu'elle était tombée du ciel à un jeune homme qui, la veille, ne possédait pas un sou. Monsieur de la Tremblay, nous nous en souvenons, s'était promis de quitter le plus tôt possible le bouge qui lui servait de logis depuis son arrivée à Paris. Aussitôt qu'il lui fut possible de sortir, il songea à la réalisation de ce désir. Il se mit donc en quête. Après quelques recherches, il découvrit, dans le quartier aristocratique par excellence, rue du Pas de la Mule, au Marais, une maison qui faisait merveilleusement son affaire. Cette maison, point trop grande et point trop petite, était située entre cour et jardin. Elle n'avait qu'un rez-de-chaussée et un premier étage. Au rez-de-chaussée se trouvaient les appartements de réception. Les chambres à coucher, le cabinet de travail et la bibliothèque occupaient le premier étage. Les cuisines étaient souterraines. Raoul passa un bail de 9 ans avec le propriétaire de cette maison. Puis il s'occupa de meubler son nouveau domicile. Nous n'entreprendrons point de décrire ici cet ameublement, qui fut somptueux. Contentons-nous de dire que partout étincelaient les bahuts de boule, les guéridons de laque du Coromandel, les chinoiseries précieuses et ces exquises marqueteries de bois de rose et de bois des îles qu'aimaient tant nos bons aïeux et surtout nos belles aïeules. En fort peu de jours, il dépensa 60 000 livres environ. Du reste, avouons-le, c'était de l'argent bien placé. Ses premiers aménagements terminés, M. de la Tremblay fit l'acquisition d'un carrosse et d'une paire de chevaux de couleur Isabelle, les plus jolis du monde. Il eut un gros cocher, amplement galonné. Ce cocher, un cuisinier, 2 valets de pied et Jacques, qui remplissait les fonctions de valet de chambre, composèrent toute la maison de Raoul. Ce dernier songea ensuite à une affaire importante et qu'il se promit bien de ne pas négliger plus longtemps. Nous voulons parler de la recherche et du choix d'une maîtresse. Nos lecteurs sont en droit de se récrier et de nous accuser, nous et notre personnage principal, d'une impardonnable inconséquence. Nous avons, en effet, montré Raoul altéré de vengeance, la désirant par-dessus tout, l'appelant de tous ses vœux, comme l'aveugle appelle la lumière, comme le mourant appelle la vie. Et maintenant, nous le voyons s'occupant de toute autre chose que de cette vengeance tant rêvée. Est-ce logique? Oui. Comment cela? Mon Dieu, c'est bien simple. Raoul dédaignait une vengeance vulgaire, hâtive, décolorée. Il voulait quelque chose de plus complet, de plus ingénieux. Il voulait frapper ses ennemis à l'endroit le plus sensible de leur cœur et de leur corps, et retourner longtemps le couteau dans la plaie. Mais de quelle façon et par quels moyens arriver à ce but grandiose? Voilà ce que Raoul ne savait pas encore. Voilà pourquoi il temporisait. Monsieur de la Tremblay cherchait son plan, comme un artiste cherche son idéal, comme un poète cherche son drame. Devait-il le trouver bientôt? C'est ce que nous apprendra l'avenir. Raoul, avons-nous dit plus haut, avait résolu de prendre une maîtresse. Non point qu'il obéit à de bien fougueuses passions, loin de là. Le libertinage ne comptait pas le moins du monde parmi les vices dominants du jeune homme. Mais à cette époque, un gentilhomme sans maîtresse était un corps sans âme, un être incomplet, une anomalie, une impossibilité. Il fallait subir la loi commune, et cette loi-là, Raoul se l'avouait à lui-même, n'avait rien de bien pénible. Donc, Raoul avait résolu de se donner une maîtresse. Ceci n'était point une petite affaire. Cette maîtresse, en effet, où la trouver? Monsieur de la Tremblay ne pouvait se contenter de la première venue. Il lui fallait une femme dont il pût se faire honneur. Une femme jeune et charmante, qui l'entourerait d'élégance et de splendeur, qui ferait partie de son luxe, qu'il pourrait montrer avec orgueil à ses amis et à ses ennemis, comme on étale un diamant de 20 000 écus au petit doigt de sa main gauche ou à la garde de son épée. Il lui fallait une femme assez belle pour être remarquée partout, assez bien élevée pour n'être déplacée nulle part. Une femme, en un mot, telle que l'eût été Émeraude, à part, bien entendu, sa complicité avec les bandits de la rue du Gindre. Mais encore une fois, où chercher? Où trouver cette femme? Une fille d'opéra? Raoul n'y voulait pas penser. Ses tendresses vénales, ses caresses sans cesse à la disposition du plus offrant et dernier renchérisseur, ses lèvres toujours prêtes au baiser, révoltaient ce qu'il y avait encore en lui d'instinct noble et de sentiments délicats. Une grisette ? Il fallait descendre trop bas pour élever ensuite jusqu'à lui quelques minois chiffonnés qui regretteraient les porcherons et brûleraient clandestinement d'une flamme illicite pour quelques beaux gardes françaises. Une grande dame ? Ceci rentrait pour Raoul dans la spécialité des choses impossibles. Nous savons déjà qu'il ne connaissait personne qui pût, quant à présent, lui donner ses entrées dans le monde aristocratique et réellement blasonné. Grande était la perplexité du jeune homme quand une idée soudaine traversa son esprit. Cette idée était lumineuse, ou tout au moins lui semblait telle. Il venait de se ressouvenir de la juive Déborah et du commencement d'amour qu'il avait ressenti après l'avoir rencontrée une seule fois. Raoul ignorait l'immense fortune d'Ézéchiel Nathan, qu'il ne considérait que comme un prêteur sur gage de l'ordre le plus infime. Il ne doutait pas que la belle juive ne cédât avec un empressement rempli d'ivresse aux séductions qu'il se proposait d'exercer sur elle. Seulement, pour la séduire, il fallait la voir. Pour la voir, il fallait s'introduire de nouveau chez le juif. Pour pénétrer dans la maison de Nathan, il fallait un prétexte. Raoul ne l'avait pas encore. Sans doute, rien n'était plus facile que de se présenter comme emprunteur, ainsi qu'il l'avait déjà fait, et de déposer quelques bijoux entre les mains de l'usurier. Mais Raoul savait à merveille que l'apparence de la misère ne séduit guère les jeunes filles, et il lui répugnait que Déborah le crût pauvre et réduit aux expédients. Comment donc faire? Le hasard vint à l'aide de notre héros et lui fournit ce prétexte que son imagination ne parvenait pas à se créer. Chapitre 18. Raoul et Nathan. Trois semaines s'étaient écoulées depuis l'accident arrivé à Raoul sans que celui-ci fût retourné à la maison de jeu de la rue Saint-Honoré. Un beau soir, il éprouva l'impérieux besoin de revoir ruisseler l'or sur ses tapis verts qui deux fois lui avaient emporté bonheur. En conséquence, après son dîner, il prit le chemin du tripot. Il allait franchir le seuil de la porte cochère qui donnait accès dans la vaste cour quand il se sentit retenir par la casaque de son habit. En même temps, une voix, qui ne lui était point absolument inconnue, lui dit avec un accent nasillard et une prononciation allemande. « Pardon, mon gentilhomme. Pardon de la liberté grande. » Raoul se retourna. Il vit, à côté de lui, la grotesque et chétive figure du juif Ézéchiel, dont la bouche large et démantelée lui souriait. En toute autre occurrence, Raoul aurait su le plus mauvais gré à Nathan de l'aborder dans un lieu public, décelant ainsi des relations qui devaient rester secrètes. Mais le petit usurier était le père de la divine Déborah. Il parlait le premier à Raoul, donc il avait affaire à lui. Selon toute apparence, le prétexte vainement cherché par le jeune homme allait se présenter enfin. Cependant, le juif, à qui M. de la Tremblay ne répondait pas d'abord, saluait jusqu'à terre et répétait sa phrase. « Pardon, mon gentilhomme, pardon de la liberté grande !» Toutes les réflexions que nous venons de rapporter un peu plus haut, Raoul les avait faites en beaucoup moins de temps que nous n'en avons mis à les décrire. Aussi, au lieu de témoigner au juif le mécontentement que lui inspirait sa familiarité intempestive, il répliqua de l'air le plus cordial et du ton le plus bienveillant « Bonsoir, mon cher monsieur Nathan. Qu'y a-t-il pour votre service ? Vous plairait-il de m'accorder un entretien de quelques minutes ? Rien n'est plus facile. Pouvez-vous m'écouter sur le champ ? Très bien. Alors, au lieu d'entrer dans cette cour qui est pleine de monde, promenons-nous pendant un instant dans la rue, le long des maisons. » Comme vous voudrez. Raoul et le juif s'éloignèrent de quelques pas. Puis M. de la Tremblay demanda « Voyons, mon cher monsieur Nathan, de quoi s'agit-il ? » « Il s'agit de quelque chose qui vous regarde, mon gentilhomme. » Raoul regarda le juif avec étonnement. « Qui me regarde, moi ? » répéta-t-il. « Mon Dieu, oui ! Qu'est-ce donc ? Je vais vous le dire, et vous le sauriez depuis longtemps s'il m'avait été possible de vous rencontrer. Mais comme j'ignorais votre nom et votre adresse, il était indispensable que le hasard nous remît en face l'un de l'autre. C'est vrai. 5 ou 6 fois je vous ai guetté à la porte de la maison de jeu, toujours inutilement. Il y a 3 semaines que je n'y ai mis les pieds. Excellente raison pour ne point vous y voir. J'en arrive à ce qui vous intéresse. La curiosité de Raoul était violemment surexcitée. Le juif continua. Mon gentilhomme, vous avez été volé, dit-il carrément. Raoul tressaillit. Quoi? Vous savez? S'écria-t-il. Je ne sais rien, reprit Nathan. Rien, absolument. Mais je fais des suppositions, et je les crois justes. Vous avez été volé, n'est-ce pas?
Oui, répondit Raoul, volé et assassiné aux 3/4 par-dessus le marché.
Que vous a-t-on pris?
Tout l'or que je portais dans mes poches.
Et quoi encore?
La montre armoriée que j'avais retirée de vos mains quelques heures auparavant.
C'est là que je voulais en venir, fit Nathan.
Je ne vous comprends guère.
Je vais m'expliquer. Cette montre est un bijou de famille.
Je vous l'ai déjà dit.
Vous y tenez beaucoup.
Énormément.
Alors, vous serez bien aise de la retrouver.
Pour la ravoir, je donnerais volontiers plus du double de sa valeur.
Eh bien, mon gentilhomme, je connais quelqu'un qui la mettra à votre disposition.
Allons donc, c'est impossible, s'écria Raoul.
La preuve que ce n'est point impossible, répliqua Nathan,
c'est que cela est.
Quelqu'un, dites-vous, la mettra à ma disposition?
Je le répète.
Et qui donc?
Moi.
Vous, mon cher monsieur Nathan? Répéta Raoul stupéfait.
Oui, mon gentilhomme, moi-même, pour avoir l'honneur de vous servir.
Mais comment se fait-il?
Raoul s'interrompit. Nathan acheva la phrase commencée.
« Que votre montre se trouve entre mes mains, n'est-ce pas ? » dit-il.
« Justement.
Oh, c'est toute une histoire. Pouvez-vous me la conter ? » ?»«
Oui, certes. Elle est bien simple. » »«
Alors j'écoute. » »«
Figurez-vous, » commença le juif, mais il fut interrompu par l'arrivée d'un nouveau personnage. C'était un petit nègre africain, assez misérablement accoutré, qui servait à Nathan de valet, ou plutôt de commissionnaire. Il s'approcha de son maître et lui dit tout bas quelques mots. Puis il s'éloigna, après avoir entendu la réponse du juif.